Deutsche Welle, magazine environnement.
Au menu cette semaine, la pollution du lac Tchad en République démocratique du Congo. Nous parlerons également de la lutte contre la dégradation des terres au Burkina Faso avec un responsable de la société civile qui participe à la réunion de l'ONU sur la désertification à Windhoek en Namibie. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouverture ce lundi à Namibie, un pays semi-désertique de 10 jours de travaux de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La question est plus que d'actualité dans ce pays frappé en ce moment par une sécheresse. Ce que l'on vit en Namibie, situé dans le sud du continent, n'est pas loin de la situation dans d'autres régions de l'Afrique. C'est pourquoi Ernest Compaoré, l'un des responsables de la société civile burkinabé qui participe à cette réunion, demande des actions urgentes.
Notre revendication, c'est qu'au-delà des grandes concertations, les acteurs majeurs des questions environnementales puissent prendre des engagements fermes qui se traduisent concrètement sur le terrain et par des mesures allant dans le sens d'apporter une réponse tout à fait appropriée aux différents problèmes créés par le changement climatique. Nous trouvons donc que les mesures fortes tardent à voir le jour. Il y a par exemple les différents mécanismes de financement de l'atténuation et de l'adaptation qui sont à chaque fois brandis, mais concrètement, nous ne voyons pas encore d'effet de ces mesures-là. Généralement, ce sont des promesses qui ne sont pas du tout tenues.
Nous allons revenir sur la politique de la lutte contre la désertification ou de la dégradation des terres au Burkina Faso dans la deuxième partie de ce magazine avec Ernest Compaoré. Mais en attendant, cap sur la République démocratique du Congo, dans l'est de ce pays, une pollution menace le lac Kivu, l'un des plus grands lacs du continent. Face à ce danger, l'association Chantier des jeunes pour l'écologie a adressé récemment une pétition aux autorités politiques de la province du Sud Kivu. L'organisation leur demande de prendre des mesures pour protéger ce lac qui est devenu un dépotoir et tout le long de son littoral transformé en station de lavage de voitures. C'est là où travaille Charles, un jeune chômeur congolais. Paulin Bachengezi, notre correspondant dans la région, l'a rencontré. Son reportage.
On ne nous a jamais fait de reproche sur le lavage des voitures au bord du lac. Je veux bien savoir si cela est interdit, mais je sais bien que nous ne jetons pas des déchets polluants dans le lac. Si vous ne le savez pas, je dois vous informer que les poissons se nourrissent des ordures et des déchets que nous jetons ici dans le lac. Ils se nourrissent de ces déchets.
Ici, beaucoup des gens comme Charles trouvent normal que les déchets qu'ils produisent aillent directement dans le lac. Le professeur Pascal Issoumbicho est écologiste. Il fait des recherches sur le lac Kivu et trouve cette situation très anormale.
En fait, vous savez ce qui se passe dans la vie de Bukavu, c'est que pendant la saison sèche, comme il ne pleut pas, les gens entassent tous les déchets ménagers, tout. Même les déchets du marché, ne vous en faites pas. Et quand il pleut, les eaux des ruissellements ramassent tout ça. Et la destination finale, c'est le lac Kivu. Donc je ne sais même pas énumérer. Mais c'est tout ce que nous produisons, tout se retrouve dans le lac.
Pour lui, la pollution du lac Kivu constitue une réelle menace pour les espèces qui vivent sur son littoral.
Le lac Kivu n'a qu'une vingtaine, 29 espèces de poissons. Une vingtaine d'espèces ne vivent que dans la zone littorale, qui est déjà très limitée. Les aplochromis et même les tilapias. Donc si cette zone est polluée et que cette pollution amène à la disparition de ces poissons, eh bien nous pouvons perdre plus de 3/4 des espèces de poissons à cause de la pollution de la zone littorale du lac.
À quelques mètres du lieu où Charles passe ses journées, se trouve un port. Des embarcations en provenance de la ville voisine de Goma ou de l'intérieur de la province y accostent tous les jours avec marchandises et passagers. Tout autour, les gagnes peu y ont érigé un marché, le Beach Mwanzi. Ce lieu est considéré comme l'un des plus polluants pour le lac. Rigobert Bamba, qui en est le président, croit bien savoir pourquoi.
Le marché n'est pas modernisé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dépotoir public même. Là où on peut entasser tous ces déchets-là, puis les évacuer. Les problèmes que nous connaissons ici, pendant la période de pluie, il y a toujours un problème très sérieux, comme on n'a pas de dépotoir public. Il y a les gens qui comprennent, on entasse ces déchets, on les amène dans la forêt ici à côté, mais il y a des personnes qui nous échappent, parce qu'il n'y a pas un endroit approprié pour entasser ces déchets-là. Et de temps en temps, ils les jettent même dans les lacs.
Si la menace est permanente, Josaphat Mwenda-Pekie veut bien proposer quelques solutions. Il est artiste et responsable de l'association Chantier des Jeunes pour l'écologie. Il a récemment adressé une pétition aux autorités sur la pollution du lac Kivu, mais ne compte pas en rester là.
On va organiser des concerts populaires dans des quartiers très populaires. Et la participation au concert est conditionnée par l'apport de 10 sachets usagés ou 5 canettes ou même 10. Et je suis convaincu qu'avec l'art, on peut ramasser tous ces déchets, mais on n'est rien de temps. Et après, on va demander un endroit à la mairie où on va les incinérer. On aurait bien voulu qu'on ait une possibilité de recyclage de ces déchets. Mais tant qu'il n'y en a pas, et tant que la saison de pluie s'annonce et elle a commencé, on ne va pas accepter que ça coule. On va les prendre, tous ces déchets, et on va les brûler à un certain endroit.
Du côté de l'État congolais, Mme Georgette Mukazaire, qui s'occupe de la gestion de l'environnement autour des rives du lac Kivu, avoue toute son impuissance.
Il n'y a pas de dépotoir, nous n'avons pas d'assistance. Ces derniers temps, nous sommes fatigués. Nous avons fait beaucoup de bruit, mais c'est en vain.
Est-ce que les gens qui exercent leur petit commerce dans le marché sont conscients du danger que les déchets qu'ils produisent représentent pour le lac?
Oui, ils savent très très bien, mais ce n'est pas de leur faute. La faute incombe aux autorités.
Si la pollution ne s'arrête, le professeur Pascal Issoumbicho prédit à long terme une situation aux conséquences très redoutables.
Si nous continuons à polluer notre lac, cela peut à long terme contribuer à l'augmentation du gaz méthane. Et si la quantité de gaz méthane continue à augmenter, la saturation des eaux profondes peut arriver à 100%, de sorte que une partie de ce gaz méthane peut commencer à passer dans les eaux de surface. Et si les eaux de surface deviennent saturés en gaz méthane, un petit rien suffit pour qu'il y ait une éruption. Et s'il y a éruption du gaz méthane, ça ne sera pas comme au Cameroun. C'est toute la ville de Goma, tout Bukavu, évidemment les villes du Rwanda, même Uvira et Bujumbura, qui peuvent être affectées.
Et à moyen terme, Josaphat et ses compagnons écolos entendent exiger du gouvernement congolais l'érection du lac Kivu comme aire protégée. Paulin Bachungezi, au bord du lac Kivu, à Bukavu, pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Je vous le disais tantôt, s'est ouverte ce lundi en Namibie la conférence de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. En matière de lutte contre la dégradation des terres, des pays comme le Niger et le Burkina Faso ont leur mot à dire. Ernest Compaoré est l'un des responsables de la société civile burkinabé et aussi le point focal de Terre Africa dans son pays. Terre Africa est une plateforme de l'Union africaine et des partenaires au développement pour la gestion durable des terres.
Il faut observer que la riposte du Burkina Faso face à l'impact négatif de la désertification s'est faite à deux niveaux. D'abord, au niveau du gouvernement, par l'adhésion aux différentes conventions, enfin la convention notamment relative à la désertification et donc les dispositifs internationaux en la matière, ce qui a entraîné au plan national évidemment la mise en place d'une batterie de dispositifs. Il y a eu la mise en œuvre de grands programmes ou projets. Par exemple, les mesures qui ont été prises de façon déterminante par le gouvernement pour la production de contre-saison, ça réduit la dépendance du monde paysan, donc de la pluviométrie, à savoir que, bon, en saison sèche maintenant, nous produisons un certain nombre de choses, ce qui ne se voyait pas avant.
Par exemple, la tomate.
Bon, pas uniquement la tomate, bon, tous les légumes, hein, il fait un certain nombre de, même le maïs, etc. Maintenant, nous le produisons au Burkina Faso en saison sèche, du fait donc de la culture des contre-saisons. Et il y a également ce qu'on a appelé les pôles de croissance. Je citerai par exemple le pôle de croissance de Bavré qui est en train de prendre son essor et qui va permettre sur de grandes superficies de faire de grandes productions. Et il y a également la valorisation du monde rural. Il y a par exemple la journée nationale du paysan qui est une occasion pour le monde paysan de rencontrer le chef de l'État et d'échanger avec lui de vive voix sur leurs préoccupations. Généralement, ces journées sont assorties d'engagements fermes qui se concrétisent sur le terrain par par l'appui au monde paysan, soit par la fourniture d'intrants, soit par la fourniture d'outils de travail. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Au niveau des acteurs non étatiques, il faut dire également que beaucoup de choses ont été faites. Alors, certaines ONG, associations de développement se sont spécialisées véritablement sur les questions de l'environnement. Ils sont sur le terrain. Ils ont développé également une synergie d'action en créant des coalitions, des réseaux qui fonctionnent, qui leur permettent d'apporter des réponses donc aux questions de désertification. Si vous allez au nord du Burkina, vous allez voir un certain nombre de bonnes pratiques, les techniques de ZAI, de cordons pierreux, de haies-vives, etc., qui ont été développés par des paysans que nous appelons des paysans innovateurs et qui leur permettent donc de faire face à ces problèmes-là.
Et parmi ces paysans, il y a aussi énormément de femmes.
Absolument, absolument. Il faut savoir que les femmes au Burkina constituent quand même 52% de la population et elles sont sur pas mal de terrains les plus visibles et les plus combatives. Hein. Elles s'organisent en groupement de femmes. Et on les voit tous les jours donc sur le terrain à déployer de l'énergie donc aux côtés des hommes. On les voit très tôt le matin sur les rues, hein, revenant donc des différents villages autour des grandes villes où elles vont chercher fruits et légumes pour venir revendre. Donc elles sont particulièrement actives, ces braves dames-là.
Mais le schéma tel que vous venez de le présenter, c'est pratiquement ce qui se voit dans les autres pays, surtout dans les pays voisins, mais ça ne réussit toujours pas. Et quel est, vous, votre secret au Burkina?
Disons que toute action de développement ne peut se déployer et porter des fruits que si elle est engagée dans un environnement apaisé, permet aux uns aux autres de vaquer à leurs occupations.
Mais il faut aussi citer l'engagement des organisations de la société civile. Il y a une éducation ou bien une sensibilisation basée sur l'éducation civique. C'est ce qu'on voit dans votre pays.
L'un de nos atouts, c'est que les acteurs de la société civile au Burkina se sont organisés très tôt. Et tout cela a pour conséquence, effectivement, que l'action de cette société civile soit tout à fait visible sur le terrain et se traduit en des termes concrets. Et lorsque, par exemple, nous sommes dans une situation d'urgence, vous allez voir ces mêmes acteurs de la société civile aux côtés des acteurs gouvernementaux, donc à la rescousse donc de ceux qui sont dans le besoin.
Merci à Ernest Compaoré, l'un des responsables de la société civile burkinabé, qui participe à la réunion onusienne sur la lutte contre la désertification en Namibie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au micro, Kossivitiasou, et restez à l'écoute de la Deutsche Welle.